Nom de Dieu ce matin. J'espère que oui, parce que, laisse-moi vous dire, Jésus est là, et il a des bonnes choses pour nous ce matin. J'ai vraiment hâte même de partager ce message. Ça fait au moins un mois que je savais que j'étais censé à partager ce message avec vous. Je ne savais pas exactement quelle date, mais là, c'est la journée, et c'est des choses qu'on va voir qui sont pratiques, qui sont destinés à transformer notre vie. C'est ça que j'aime de la Bible, de la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement terre à terre, mais en même temps, ça change complètement notre vie. N'est-ce pas merveilleux? Donc, combien de vous croyez que ce livre est inspiré de Dieu? Vous savez que la Bible dit que ce qu'on dit avec la bouche et en croyant du cœur, que ça s'accomplit? Donc, on va faire une déclaration. On va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen, amen. Donc, vous savez que il y a 3 semaines, je pense, que même avant ça, je commençais à parler un peu de l'importance de comprendre vraiment l'époque qu'on vit, le temps qu'on vit, que nous sommes dans les derniers jours. Et on a vu à travers les semaines, il y a pas mal d'indices même. Il y a des choses qui nous indiquent que le retour de Jésus est proche. Et on a parlé de cela. La semaine passée, on a eu le privilège d'avoir notre invité, notre bien-aimé, Pastor John Madden, qui a partagé en bonnes paroles, etc. Mais j'ai vraiment à cœur ce matin de continuer dans la direction de comment vivre à la fin des temps. Est-ce que ça vous intéresse? Et qu'est-ce qu'on a dit, si vous vous rappelez, c'est qu'il y a plusieurs extrêmes qu'on peut voir dans les églises et chez les chrétiens. Il y a des personnes qui d'un côté, ils vont commencer à se moquer ou de mettre en question, est-ce que c'est vrai que Jésus revient? Depuis longtemps, tout le monde parle de l'enlèvement, que Jésus va venir chercher son église, etc. Et moi, je m'en souviens, quand j'étais un petit garçon, même j'ai entendu ça à l'église, mon pasteur en parlait, et je peux vous avouer que quand j'étais pas vraiment avec le Seigneur moi-même, que j'ai eu des moments où je craignais même, « Oh, est-ce que je vais peut-être manquer l'enlèvement? » Et je comprenais pas vraiment la parole de Dieu. Je comprenais pas vraiment que tous ceux et celles qui sont nés de nouveau vont être enlevés, etc. Mais je m'en souviens d'une journée, parce que mon pasteur prêchait beaucoup sur la fin des temps pendant quelques semaines, et il parlait de l'enlèvement. Et un jour, j'arrive à la maison après l'école, et la porte est débarrée, et la télévision, la radio sont allumées, toutes les lumières sont ouvertes, mais il n'y a personne dans la maison. Et mon frère, qui avait 3 ans de plus que moi, lui, à l'époque, il était en feu pour Jésus, il aimait le Seigneur et tout, et donc j'arrive à la maison, mon frère n'est plus là. Et tout de suite, tu sais qu'est-ce qui se passait dans ma tête? Oh non, j'ai commencé à avoir peur, est-ce que Jésus est venu, j'ai manqué l'enlèvement, hein? Donc tout de suite, j'ai commencé à chercher les postes de radio, et est-ce que quelque chose s'est passé? Et moi, j'avais quoi? Je pense que j'avais 10 ans à l'époque, quelque chose comme ça. Disons, non, peut-être plus que ça, hein. J'étais en 6e année, donc voilà, mais c'est pas ça dont je parle. Il y a des extrêmes, il y a des personnes qui vont prêcher sur les fins des temps, et presque ils vont vouloir vous faire peur, que si vous ne faites pas attention, vous allez manquer l'enlèvement, et ceci, cela, c'est pas le but. Il y a d'autres personnes qui vont aller à l'autre extrême, comme je dis, il y a un extrême, les gens qui disent, oh mais, bon, ils ont dit ça depuis des années, ça va jamais arriver. Il y a l'autre extrême, que les gens qui vont pousser les choses et jusqu'à créer une crainte et une peur chez les gens, et qui est vraiment pas équilibré. Comme j'ai expliqué il y a quelques semaines, il y a des groupes de personnes qui sont convaincues que la fin des temps s'approche et ça va être tellement difficile. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est d'aller se cacher dans les cavernes, de se cacher dans les bois. Littéralement, il y a des groupes de personnes qui ont acheté des grandes terres dans les bois cachées et ils ont des réserves de canage et des boîtes de conserve et toutes sortes de choses. Et donc, tout cela est stocké. Ils sont là pour vraiment se cacher parce que l'Antéchrist s'en vient. Et comme je dis, il ne veut pas avoir un numéro de téléphone si ça contient les chiffres 666. Ou ils n'habiteraient jamais une adresse qui contiendrait les chiffres 666. Pourtant, à tous les jours, ils coopèrent avec l'esprit de l'Antéchrist, parce qu'ils vont chicaner leurs femmes, ils vont avoir des difficultés avec tout le monde. Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc, il y a deux extrêmes. Les personnes qui vont dire, oh, l'Antéchrist, oh, j'ai peur, et oh, il faut qu'on se cache. Et d'autres personnes qui disent, oh, il dit ça depuis longtemps que Jésus revient. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est que Jésus revient, il revient bientôt, mais la Bible dit qu'il attend le précieux fruit de la terre. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il n'est pas lent. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, selon 2 Pierre 3, c'est qu'avec le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et dans le fond, ça fait presque juste 2000 ans à peu près que Jésus est parti au ciel, donc ça fait même pas 2 jours qu'il est parti. Donc, il ne tarde pas. Même pas 2 jours. C'est pas long, vous êtes d'accord? Donc, Jésus revient, mais il attend une chose. Il attend que les nations soient évangélisées. Il attend qu'un plus grand nombre de personnes connaissent le Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'on peut attendre et même hâter son retour. On peut hâter, on peut faire quelque chose pour que Jésus revienne même plus tôt. Amen? C'est ça que la Bible dit. Lisez vous-même 2 Pierre chapitre 3. Plus on prêche l'Évangile, plus on atteint les nations avec le message de la croix et de Jésus-Christ et de sa résurrection, plus les gens vont croire, plus les gens vont être sauvés, plus la moisson va grandir et plus vite Jésus va revenir. Amen. Donc, c'est officiel que nous sommes dans les derniers jours. Pourquoi est-ce qu'on le sait? Parce que les derniers jours, officiellement, ont commencé le jour de Pentecôte, quand Jésus a répandu sur l'Église son Saint-Esprit. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, la Bible dit. Donc, le moment que l'Église fut remplie du Saint-Esprit, les derniers jours, si vous voulez, ont officiellement commencé. Amen? En plus, on voit plusieurs places dans les Écritures où les apôtres, que ce soit l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre ou l'apôtre Paul, ils ont dit ils ont écrit de leur propre main, poussés par le Saint-Esprit, que c'est vraiment les derniers jours, les derniers temps, la fin de toutes choses, etc., etc. Donc, déjà depuis 2000 ans, nous sommes dans les derniers jours. Et on peut lire les Écritures, et qu'est-ce qu'on voit? C'est que les apôtres, on voit que probablement ils avaient l'impression que eux autres, ils seraient enlevés pendant leur génération. Mais le problème, c'est que leur génération n'a pas accompli le mandat. Le mandat n'est pas toujours terminé d'aller dans toutes les nations et de prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Amen? Alors, regardons, il y a quelque chose dans vos notes que je vous ai donné. Et c'est notre verset clé pour aujourd'hui, 1 Pierre chapitre 4. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, et si le Seigneur me dirige, on va peut-être faire un message de plus sur ce sujet, je ne sais pas encore. Mais qu'est-ce qu'on veut? On ne veut pas, je ne suis pas là pour parler des fins des temps dans le sens d'essayer de vous montrer c'est qui l'Antéchrist ou qu'est-ce qu'il va avoir là et qu'est-ce qu'il va faire. C'est pas ça. Vraiment, le but du message aujourd'hui, c'est de voir ce que dit la Bible. Est-ce qu'il y a des gens qui apprécient la Bible? Ce que dit la parole de Dieu, quelles sont les instructions précises qui sont inspirées de Dieu et qui nous concernent, qui s'appliquent à nous? Qu'est-ce que Dieu a dit concernant comment nous devrions vivre dans les fins des temps? Dieu nous a donné des instructions précises, nettes et claires. Et si nous suivons ces instructions, nous serons bénis, prospère, nous allons réussir et nous allons accomplir le plan de Dieu pour notre vie, même si le monde autour de nous va passer par les difficultés, ça va aller de pire en pire, le noirceur va devenir de plus en plus noir, La méchanceté va devenir de plus en plus méchant. Mercredi passé, on a parlé des temps difficiles, etc., qui s'en viennent sur la terre. Et probablement, mercredi soir, on va continuer cette étude sur les temps difficiles qui s'en viennent et comment vivre dans les temps difficiles et comment réussir dans les temps difficiles. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réussir même si les temps sont difficiles? Donc encore, tout le monde dit, ce message est pour moi. Maintenant, regardez quelqu'un à côté de vous et dites, ce message est pour vous. Regardez la personne à l'autre côté et dites, et c'est pour vous aussi. Ce matin, nous allons tout simplement lire les instructions. Souvent, les hommes n'aiment pas lire les instructions. Vous êtes d'accord, mesdames? Hein? On a quelque chose à assembler et dire, bon, on est capable, il me semble que ce morceau va aller là et là et là. Et le problème, c'est que des fois, après avoir monté et assemblé la chose, il y a des morceaux qui restent. N'est-ce pas? Si on aurait pu simplement pris le temps de lire les instructions, on aurait pu réussir notre affaire et ça aurait été plus vite et plus efficace. Donc, même chose dans la vie chrétienne. Souvent, on veut pas prendre le temps de lire les instructions. Et dans le fond, on perd du temps. Il y a des parties de notre vie, des morceaux de notre vie qui n'ont aucun sens. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, messieurs, ou peut-être même mesdames, vous assemblez votre affaire et vous dites, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai aucune idée, ça sert à quoi? Ça peut pas être tellement important, mais on peut l'égarer, on peut le perdre, et là, quand on c'est le temps d'utiliser notre patente, ça marche pas! Et là, on cherche à tout prix, il faut que je trouve ce morceau. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Je l'ai jeté dans la poubelle. Qu'est-ce que j'ai fait? Savez-vous, c'est comme ça dans la vie chrétienne, souvent. On ne lit pas les instructions, donc il y a des morceaux qui semblent inutiles ou qui ne fitent pas, on ne comprend pas c'est quoi, et on ne fait pas vraiment attention à certaines choses de notre vie, certains domaines de notre vie, jusqu'au moment où la vie ne marche plus. Et quand la vie ne marche plus, on dit, oh oui, c'est pour ça que Dieu a dit qu'il faut faire ça de telle façon, oh, où sont les instructions? Vaut mieux lire les instructions avant, n'est-ce pas? Donc, dans ces derniers temps, il y a des instructions que Dieu nous a données pour réussir et pour prospérer même dans les temps difficiles. Et voici, il y en a quatre qu'on va voir aujourd'hui. Je pense pas qu'on va prendre longtemps, mais on va prendre assez de temps pour voir ces quatre instructions, que si nous faisons ces quatre choses, c'est garanti que nous allons pouvoir réussir notre vie. Amen? Est-ce que ça vous intéresse? 1 Pierre, chapitre 4, verset 7, dit ceci, « La fin de toutes choses est proche. » C'est qui a dit ça? Pierre, mais dans le fond, c'est qui a dit ça? C'est le Saint-Esprit à travers Pierre qui a dit, il y a 2000 ans à peu près, la fin de toutes choses est proche. Regarde quelqu'un encore et dit, la fin de toutes choses est proche. Alors, parce que la fin de toutes choses est proche, le Saint-Esprit va donner les instructions, qu'est-ce qu'on a besoin de faire. OK? Soyez donc, ou en autre mot, parce que la fin de toutes choses est proche, soyez donc sages et sobres pour vaincre la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres en ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns vers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, qu'il se soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Quatre choses, quatre instructions que nous sommes appelés à suivre. Première chose, qu'est-ce que Dieu dit? La fin de toutes choses est proche. Alors, première chose, soyez sages et sobres afin de prier. Voulez-vous réussir dans ces derniers jours? Il faut que vous marchiez dans la sagesse. Il faut que vous soyez sobre dans le but de pouvoir prier avec efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est la prière qui est notre ligne directe avec Dieu. C'est à travers la prière qu'on peut changer les circonstances, C'est à travers la prière qu'on peut recevoir la direction. Vous voulez savoir par où tourner, qu'est-ce que vous devrez faire avec votre vie, où vous devrez travailler, qu'est-ce que vous devrez faire dans votre situation familiale, etc. C'est à travers la prière que le Seigneur va communiquer la sagesse de Dieu et la direction de Dieu, et vous allez pouvoir réussir votre vie. C'est dans la prière que le Seigneur pourrait vous même diriger dans vos finances ou dans vos rapports avec les autres. Le Seigneur peut faire des choses incroyables à travers la prière. La prière fervente, pas la prière tiède, mais fervente du juste a une grande efficacité. Mais pour prier avec ferveur et efficacité, il faut qu'on soit sage et sobre. Je crois que c'est quelque chose d'important. Il y a un verset que j'ai mis dans vos notes, et c'est sur le PowerPoint aussi, qu'on va lire ce matin par rapport à cela. C'est en Éphésiens chapitre 5, où encore l'apôtre Paul il donne cette même idée que dans les derniers jours, il faut vivre d'une manière efficace. Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Posez-vous la question ce matin, comment est-ce que vous êtes en train de vivre dans ces derniers jours? Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des quoi? Sages. C'est exactement ce que Pierre a dit, n'est-ce pas? Soyez donc sages, faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous. Car les jours que nous vivons sont mauvais. Qu'est-ce qu'il a dit? Les jours que nous vivons sont mauvais. J'ai une bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que vous voulez en premier? Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les jours qu'on vit sont mauvais et méchants, et l'amour des gens va se refroidir de plus en plus, et des choses vont devenir excessivement difficiles dans ce monde dans les derniers jours. On en a parlé mercredi soir. Il y a une longue liste de 17 choses et on a vu 6 choses mercredi passé. Si vous venez mercredi qui s'en vient, on va voir 3 ou 6 de plus peut-être. Mais vous savez que dans les derniers jours, les temps, il y aura des temps difficiles. Mais voici la bonne nouvelle. Vous êtes prêts pour avoir la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que l'Église, au milieu de cette génération perverse, va continuer à croître, grandir, développer, prospérer et devenir de plus en plus glorieuse jusqu'au jour que Jésus vient nous chercher, parce qu'il ne vient pas pour une église pourrie, mais il vient pour une église glorieuse. Donc, faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Qu'est-ce que le Seigneur attend de vous? Savez-vous ce que le Seigneur qu'est-ce qu'il attend de vous dans votre vie? Est-ce que vous êtes ici sur la terre juste pour faire le, comme on dit, mettre au boulot dodo, aller travailler, gagner de l'argent, dépenser l'argent, dormir, aller travailler, dormir, aller gagner l'argent, dépenser l'argent, dormir, mourir? Est-ce que c'est pourquoi vous êtes là? Ou est-ce que vous êtes là pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Est-ce que vous comprenez votre raison d'être? Et c'est là que la Bible dit, c'est la sagesse, être sage, être sobre, et prier, c'est tout cela va de pair. Efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de l'abus de vin. Pardon, ne vous enivrez pas. L'abus de vin ne peut que vous mener au désordre. Vous voyez? Le monde aujourd'hui, ils ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre, donc ils cherchent à s'amuser. Et ça, c'est une des choses qu'on a vues et qu'on va voir mercredi soir, que on pourrait dire une des caractéristiques des gens des derniers jours, de ces temps difficiles, c'est qu'ils aiment le plaisir plus qu'ils aiment Dieu. Ils cherchent à les divertissements. Ils cherchent toujours à bombarder les 500 avec, que ça soit les stimulés visuels que ça soit au niveau, comme je dis, de divertissement, des choses qui sont pas toujours méchantes, mais des fois méchantes. Mais si notre cœur est plus concentré sur le divertissement que de Dieu lui-même, on a un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on soit sage et sobre. Sobre, dans le sens que, bon, tous mes sens sont branchés à Dieu. Quand Dieu me parle, j'entends sa voix. Si le Saint-Esprit me dit quelque chose, mon esprit est en communion avec son esprit. Je ne suis pas ivre, Mais c'est pas juste l'ivresse du vin ou le stupéfiant, mais c'est vraiment une attitude de vivre d'une manière où on est sensible à l'Esprit Saint. Et Dieu peut nous diriger, il peut nous corriger, il peut nous avertir, et on marche dans l'Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu, Romains 8, 14 dit, n'est-ce pas? Et c'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on soit sage et sobre. Pas tellement bombardé. Savez-vous que des fois, vous ne prenez pas assez de temps juste pour écouter votre cœur? Parce que dès le matin, vous ouvrez la télévision ou la radio et vous êtes bombardé. Et les 500 sont bombardés avec les signes qui vont faire en sorte que toute votre journée est remplie des bruits, des sons, des odeurs et des choses qui vont toucher vos 500 et votre sens spirituel est complètement oublié. Vous me suivez ce matin? Vivez comme ça, ça va être dangereux. Dans les derniers jours, on a besoin de se laisser guider par l'Esprit. Le Seigneur peut nous avertir s'il y a des problèmes. Vous vous rappelez, je pense que j'ai déjà entendu raconter l'histoire, le 11 septembre 2001, quand les deux avions ont frappé les tours à New York, etc., il y avait une chrétienne dans la bâtisse. Mais il y avait plusieurs. Mais j'ai entendu le témoignage d'une femme qui était là, cette journée-là. Et quand le feu a pris et tout cela, elle était, je ne m'en souviens plus à quel étage. Et normalement, quand il y a un feu dans une gratte-ciel, c'est défendu de prendre l'ascenseur parce que si le feu coupe l'électricité, on est pris dans l'ascenseur. Mais cette fille était tellement sobre spirituellement, tellement attentif à la voix du Saint-Esprit, qu'elle commençait à prendre les escaliers, et le Saint-Esprit a dit, prends l'ascenseur. Prends l'ascenseur. Mais ça n'a pas de bon sens. Sauf que quand c'est l'Esprit de Dieu qui parle, elle a pris l'ascenseur, elle est descendue, elle s'est échappée, et tous les autres qui étaient avec elle, dans cet étage, elle a dit, on prend l'ascenseur. Personne ne voulait prendre l'ascenseur, elle est descendue dans l'ascenseur, elle est sauvée. Pourquoi? Parce qu'elle était sobre, sage, elle était dans une attitude de prière. Hein? Soyez sage et sobre pour vaquer à la prière. C'est-à-dire qu'on devrait avoir une attitude de prière 24 heures sur 24 heures, toujours en communion avec Dieu. Et ça peut sauver votre vie dans les derniers jours. Amen? Bon, deuxième chose, ayez les uns pour les autres. Et regardons bien le verset. Parce que c'est tellement bon. En fait, verset 8, c'est dans vos notes si vous voulez, de 1 Pierre 4, 8 dit, avant tout, tout le monde dit avant tout. Avant tout quoi? Avant tout, ayez quoi? Les uns pour les autres en ardent amour. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Nous sommes dans les derniers jours, la fin de toutes choses est proche, soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Mais avant tout, la chose le plus important, il n'y a rien de plus important que de qu'est-ce que je vais dire là. Avant tout, ayez les uns pour les autres en ardent amour. C'est quoi la chose le plus important dans les derniers jours? Savoir c'est quoi le nom de l'Antéchrist? Non? La chose le plus important dans les derniers jours, c'est d'avoir l'amour les uns pour les autres. C'est quoi la chose la plus importante? Exercer un ministère public où tout le monde va pouvoir dire, « Oh, regarde, lui, il est vraiment loin de Dieu. Oh, wow, il est vraiment quelque chose. » Ou avoir l'amour ardent les uns pour les autres. Laisse-moi vous dire, je suis convaincu, et pendant la communion ce matin, j'avais la même chose. Dieu veut tisser nos cœurs ensemble. Dieu veut qu'on s'aime pour vrai, d'une manière authentique. Savez-vous une chose? Je suis quand même assez vieux, je ne suis pas vieux du tout. Je suis vraiment jeune, malgré qu'est-ce que mes enfants pensent des fois. Mais je suis assez vieux pour savoir que dans une église ou dans une famille, il y a certains membres de la famille qui vont avoir plus d'affinité avec d'autres membres, n'est-ce pas? C'est pas tout le monde qui va toujours vouloir passer du temps proche ensemble. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents d'avoir deux pieds? Combien de vous êtes contents d'avoir deux pieds? Bon. Je vais poser une question un peu drôle. Est-ce que vous aimez vos pieds? Vous, peut-être vous dites, non, pas tellement, mais laisse-moi vous dire, si vous êtes privé de vos pieds, vous allez, et vous avez la chance de les regagner, vous allez avoir un amour ardent pour vos pieds. Oh, merci Seigneur. Merci pour mes pieds. Je suis tellement content. C'est seulement quand, des fois, quand, c'est seulement quand on a mal dans un membre où on l'apprécie des fois. Il y a certains membres qu'on ne sait même pas, on oublie qu'on l'a. Juste au jour qu'on se blesse ou on fait des exercices que, oh oui, je ne savais pas que j'avais un muscle là. Mais c'est là. Vous aimez vos pieds, encore vos mains. Vous aimez vos pieds. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui aiment, est-ce que vous êtes content d'avoir un nez? Est-ce qu'il y a des gens qui, vous aimez votre nez? Vous dites, mais je ne sais pas, mais écoute, hein. Essayez de passer quelques jours sans un nez. Ça peut être difficile. C'est possible. Il y a des personnes qui n'ont plus de nez. Mais c'est difficile, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je pense qu'il y a des gens qui savent où je vais avec cela. Vous aimez vos pieds. Vous aimez votre nez. Et c'est quand la dernière fois que votre nez, vos pieds étaient en communion proche, en contact l'un avec l'autre? Je veux voir les mains. Non. Parce que là, on a des questions à vous poser. Comment est-ce que vous avez fait ça? Les bébés, ils font ça tout le temps, hein? Même pas besoin des mains. Tout d'un coup, le pied dans la bouche est fou. Mais savez-vous, ça existe les coupes-ongles. Vous n'avez plus besoin de... Qu'est-ce que je suis en train de dire? On a un amour pour nos pieds. J'ai un amour pour mon nez. Mais quand la Bible dit « Ayez les uns pour les autres un ardent amour », je ne suis pas forcément en train de dire, et je ne veux pas prétendre non plus, que tout le monde, dans tout le temps, va pouvoir passer des heures ensemble et avoir des fois du plaisir, parce que, laisse-moi vous dire, votre idée d'un bon temps, ce n'est pas forcément mon idée d'un bon temps. Mais cela ne veut pas dire que je ne vous aime pas ou que je n'ai pas un amour ardent pour vous. Est-ce que vous me suivez? Parce que qu'est-ce que je veux? Il y a certains membres que c'est bon, mes deux mains ensemble, ça marche très bien. Je peux toucher mon visage avec les mains et c'est normal et ça marche bien, n'est-ce pas? Fais la même chose avec mes pieds, ça commence à être inconfortable. Et c'est là où on a besoin de trouver cet équilibre, d'avoir un amour, un respect et même un amour ardent pour tous les membres de Christ et par la suite de trouver les membres avec qui on peut avoir une affinité proche et rester branché, rester proche, surtout avec ces membres. Et tous les membres sont liés les uns avec les autres et tout le corps bien coordonné forme un solide assemblage et on s'édifie dans l'amour. Et qu'est-ce que Dieu veut faire dans ces derniers jours? Il veut lier tous les membres ensemble. Mais encore, le problème, c'est qu'il y a des mouvements écuméniques qui ont essayé de dire, bon, mais on va tous être pareils, on va faire juste une église, par exemple. Il y a des personnes qui posent la question, pourquoi est-ce que si on est tous chrétiens, on n'a pas juste une seule église? Mais pourquoi, moi, j'ai 5 enfants, quand ils vont se marier, je vous assure qu'ils ne vont pas tous vivre sous le même toit. Mais ils vont avoir un amour ardent les uns pour les autres et j'espère qu'ils vont s'inviter, ils vont aller rendre visite les uns aux autres, que leurs enfants vont être des bons amis avec leurs cousins, leurs cousines. Vous me suivez? Mais ils vont pas tous vivre sous le même toit parce que ça ne marcherait pas. Hein? J'ai quelques-uns de mes enfants qui sont les mordus des sports, ils adorent les sports et les choses comme ça et j'ai d'autres enfants qui détestent les sports. Ça ne marcherait pas sous le même toit. Hein? Quand c'est le temps de décorer, quand c'est le temps de décider qu'est-ce qu'on regarde à soi, à la télé, les choses comme ça. Mais écoute, hein, 5 familles ensemble sous le même toit, ça serait un peu compliqué. Vous êtes d'accord? Pourtant, avec la bonne distance, avec la bonne relation saine, on peut avoir une grande famille étendue et on marche ensemble dans l'unité, on s'apprécie, on prie les uns pour les autres. Même chose, moi je crois qu'on a une bonne relation avec l'Église de Pentecôte. Amen? Mais ils sont différents que nous et nous sommes différents qu'eux. Quelle Église est la meilleure? Ni l'un ni l'autre. C'est quoi qui est mieux? C'est quoi qui est plus important dans votre cœur? Dans votre corps physique, votre cœur ou vos poumons? Hein? Si vous avez besoin de choisir entre un cerveau ou un cœur, qu'est-ce que vous choisirez? Écoute, je pense que j'aurais du trouble, hein? Bon, prends mon cœur parce que j'ai vraiment besoin de mon cerveau. Oh, mais ça marche pas. Mais prends mon cerveau parce que j'ai vraiment besoin de mon cœur. Et c'est la même chose dans le corps de Christ. Dieu a besoin de tous les membres. Il a besoin de toutes les églises. Et Dieu veut qu'on ait un amour ardent les uns pour les autres. Amen. On est différents. On n'est pas appelé à marcher un proche, comment je dirais ça? On ne sera pas forcément en contact direct avec tous les membres du corps de Christ. Mais avec une bonne distance entre mon nez et mon pied, ça marche bien. Ça marche très bien, mais pas en trop grande distance non plus. Amen. Juste la bonne distance, juste la bonne relation, juste exactement comme Dieu a planifié. Et c'est ça qu'on, c'est pourquoi je crois qu'on a besoin de chercher la face du Seigneur. Seigneur, si je suis un doigt index dans le corps de Christ, il faut que je sois branché à la main droite dans le corps. Si j'attache mon doigt au front, ça va être drôle. Mais si le doigt est attaché à la main, wow, je suis à la bonne place, ça va bien et c'est une bénédiction pour tout le monde. Ayez les uns pour les autres un amour ardent. Là, j'ai pris plus de temps avec ça, mais ça vaut la peine, n'est-ce pas? Jean 13, 35 dit, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors donc, voici le défi que je vous lance. Demandez au Seigneur, « Seigneur, qui sont les membres du corps, même dans notre église, avec qui je suis supposé de passer plus de temps? » Peut-être je devrais les appeler, les inviter au souper. Et qui sont les autres membres que peut-être on n'est pas vraiment de la même style. Ça ne marcherait pas. Pour une personne, une bonne journée de loisir, ça serait de s'asseoir ou aller aux bibliothèques et lire des livres. Et quelqu'un d'autre, c'est aller faire des sports extrêmes. Hein? Donc, on peut être des fois dans les repas ensemble, on fait des choses ensemble, on loue le Seigneur ensemble, mais quand c'est le moment où on va passer du temps proche, c'est peut-être pas avec cette personne que je vais le faire, mais je les aime ardemment. Lancez-vous le défi. Je vous lance le défi. Cherchez les personnes avec qui vous êtes supposé d'être en contact proche et priez pour tous les autres et développez un amour ardent pour tous les membres du corps de Christ. Amen. En Pierre 1, 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, quoi? Sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on peut s'aimer ardemment? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur. Parce que je suis régénéré, né de nouveau. Si vous dites, oh, je ne peux pas aimer cette personne, vous avez tort. Regardez-moi droit dans les yeux. Il n'existe pas une personne dans cette pièce que vous ne pouvez pas aimer ardemment. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas quelqu'un avec qui vous, peut-être, pouvez pas toujours passer du temps avec. Vous comprenez? Mais il n'y a personne ici qui n'est pas aimable. Allô? Et c'est parce que vous êtes régénéré et né de nouveau. Tout le monde dit, je suis né de nouveau. L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. Et j'ai un amour ardent pour tous mes frères et tous mes sœurs. J'aime tous les membres du corps. Les pieds, les nez, les yeux, les oreilles, les mains, les doigts, tous les membres sont précieux et importants. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on continue. C'est quoi la troisième chose que Pierre a dit sous l'inspiration de l'Esprit? Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude des péchés. Ça, c'est bon, n'est-ce pas? Mais il dit une prochaine chose. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Numéro 3, exercer l'hospitalité sans murmure. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que dans ces derniers jours, on a besoin de développer cette attitude que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons appartient au Seigneur Jésus. Et si à n'importe quel moment le Seigneur me demande de partager mes biens, mon amour, mon temps avec les autres, que je devrais avoir un cœur hospitalier, je devrais ouvrir mon cœur et partager. Amen? On a vu ça en acte dans la première église. que les gens ont partagé même leur bien. Et c'est bon d'avoir un cœur généreux et hospitalier, mais avec une bonne attitude. La Bible dit sans murmure. Tout le monde dit sans murmure. Vous savez c'est quoi les murmures? Est-ce que tu peux croire qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit? Ça, c'est les murmures, c'est les plaintes, c'est une attitude négative où on est offensé par les attitudes, les actes des autres, où on fait quelque chose, mais pas du plein gré, pas avec une bonne, de bonne volonté, mais contre-cœur. Vous savez de quoi je parle? Si vous faites quelque chose de contre-cœur, c'est pas bon. Donc, on voit cela. Il y a même quelques versets qu'on va lire ici. Tout le monde dit, je suis sage et sobre. Je vais prier. J'ai un amour ardent pour tous mes frères et mes sœurs. Je vais exercer l'hospitalité sans murmure. En Corinthiens 10, 10, on va voir que les murmures, c'est très, très sérieux, c'est grave. En Corinthiens 10, 10, c'est une référence à ce qui s'est passé aux enfants d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte et tournés en rond dans le désert. Il dit, ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. C'est quoi qui s'est passé à ceux qui ont murmuré? Ils ont péri par l'exterminateur. Savez-vous quoi? La Bible dit, soyez sages, veillez, votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Donc le diable, il veut détruire les chrétiens, vous êtes d'accord? Qui est-ce qu'il peut détruire? Qui est-ce qu'il peut dévorer? Seulement ceux qui lui donnent une porte ouverte, n'est-ce pas? Parce que si nous sommes sous le sang de Jésus, si nous avons l'autorité au nom de Jésus-Christ, la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez le diable, il fuira de vous. N'est-ce pas? Hein? Résistez-lui avec une foi ferme. On n'a rien à craindre, sauf quand on ouvre la porte à lui. Comment est-ce que l'exterminateur, le diable, peut avoir accès à notre vie? Une façon, c'est quand on commence à murmurer et à se plaindre. Ça ouvre la porte à l'exterminateur. Allô? Est-ce que vous êtes là ce matin? Donc, on ne veut pas faire cela. Dans ces derniers jours, je vous dis une chose. La Bible dit clairement que Satan, il est en colère actuellement. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un s'en souvient de ce verset? Pourquoi est-ce qu'il est en colère? Parce que il voit sa fin venir, il sait que ses jours sont limités, donc on voit que le diable c'est comme un animal enragé, une bête féroce qui cherche à détruire tout ce qu'il peut détruire, tout ce qui se croise son chemin, il est prêt à déchirer, sauf qu'il y a juste une chose, il n'a plus de griffes, il n'a plus de dents, comme Pasteur Madan a dit, n'est-ce pas? Donc la seule façon qu'il peut vous dévorer, c'est quand il vous séduit, quand il vous donne ses mensonges, ou il vous fait peur. Et si, à travers les mensonges et les séductions de l'ennemi, vous commencez à vous plaindre, à murmurer, comme ont murmuré les enfants d'Israël. « Oh, comment ça que tu nous as fait sortir d'Égypte? Au moins, on avait de la bonne nourriture là-bas. Oh oui, on était esclaves, mais on avait de la bonne bouffe. Tu nous as fait sortir pour mourir dans le désert. » Ils ont commencé à se plaindre et surtout, ils ont visé qui dans leur plainte? Dieu, mais pas juste Dieu, mais Moïse. C'était le leadership, c'était celui qui dirigeait, qui était souvent visé. Donc, c'est ça qui arrive souvent dans les derniers jours. Et faites attention, même au travail, tombez pas dans cet esprit de critique et de murmure, ou surtout, vous pouvez être tenté à calomnier et dire les choses méchantes à propos de vos patrons et les autorités. Faites pas ça, tombez pas dans le piège, parce que ça ouvre la porte à la destruction. Verset 11 dit qu'à ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Tout le monde dit, c'est pour mon instruction. À nous qui sommes parvenus, là quoi? À la fin des siècles. Vous voyez comment tous ces versets vont ensemble? Toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Verset 24 de Psaume 110 dit, ils méprisèrent le pays des délices et ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente, ils n'obéirent point à sa voix. Donc, quelles sont les instructions qu'on a vues à Dak? C'est quoi numéro 1? Je veux l'entendre de vos bouches. Soyez sages et sobres afin de prier. Numéro 2, et les uns les autres en ardent amour. Numéro 3, exercer l'hospitalité sans murmure. Et numéro 4, hein, que chacun de vous, comment on va, si vous voulez regarder la première page de vos notes dans notre texte, verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, ça soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il la remplisse selon la force que Dieu communique. J'aime beaucoup la parole vivante de ce même verset. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Donc, laisse-moi vous poser une question. Combien de vous qui êtes présents ce matin, vous avez reçu un don de Dieu? Je veux voir votre main. Vous avez déjà reçu un don. Bon, c'est ce que je pensais. Savez-vous, il y a des personnes qui n'ont pas levé la main. Et si vous n'avez pas levé la main, c'est parce que vous n'avez pas encore compris la réalité de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que chacun de vous, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il n'y a pas un chrétien qui n'a pas reçu un don. Un chrétien qui n'est pas doué n'existe pas. Mais voici le problème. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore découvert leur don, ou ils n'ont pas développé leur don, ou ils n'ont pas déployé leur don. Mais vous avez un don. Tout le monde dit, j'ai un don. Regarde la personne à côté de vous et dit, j'ai un don. Et regarde l'autre et dit, vous avez un don. Et j'en ai besoin. Que chacun de vous, on parle de comment vivre dans les derniers jours. Est-ce que vous voyez un peu l'image de quel genre d'église le Seigneur veut bâtir? Regardez-moi droit dans les yeux. Le Seigneur Jésus, le chef de l'Église, il veut bâtir une Église glorieuse. Comment est-ce qu'on va devenir glorieuse? On va être sage, on va être sobre, on va vivre dans un esprit de prière, n'est-ce pas? Puis, c'est quoi la deuxième chose qu'on va faire? Hein? On va s'aimer, on va avoir un amour ardent pour tous les membres, que ce soit les pieds, les nez, ou n'importe qui, on s'aime. Et à ceci, tous connaîtront que nous sommes vraiment ses disciples, que si on a de l'amour les uns pour les autres. Et puis, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On exerce l'hospitalité sans murmure. On n'est pas les gens qui se plaignent, mais on est des gens qui se réjouissent. Je peux juste vous dire une chose? On a mis cela en pratique l'autre jour. Quand Pasteur John Madden était là, je l'ai amené à l'aéroport. C'était quelle journée? Mardi. Et on est parti de Drummondville à 2h30 et la neige tombait. Son avion partait à 7h-10. On avait du temps en masse. Sauf qu'on arrive au pont Champlain à 4h10. N'oubliez pas qu'il faut être à l'aéroport 2 heures en avance. 2 heures en avance. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit là au plus tard à 4h50. Donc, pont Champlain, 4h10. On a encore du temps. Normalement, c'est une quinzaine de minutes du pont Champlain à Dorval. 15-20 minutes. Sauf quand il neige. Sauf quand le trafic ne bouge pas du tout. Sauf qu'on en est là et on fait ça et on s'arrête. On fait ça, on s'arrête et on attend. On attend. On attend. On a dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, Laura a même appelé Nancy parce qu'elle travaille comme hôtesse d'air. Elle dit, bon, est-ce que tu as des suggestions? Qu'est-ce qu'on peut faire si on arrive vraiment en dernière minute? Bon. Et vous savez, on a appelé, ils ont dit que probablement, si tu arrives et tu as raté ton avion, il va falloir que tu repayes la différence entre le billet et quand on achète un billet la journée même, c'est très cher, n'est-ce pas? Donc, on avait les choix à faire. On peut se plaindre. On peut être frustré. Et laisse-moi te dire, Pasteur John, moi, et on est quand même, on a un côté de nature tempérament colérique, on peut être facilement frustré. On a pris une décision, on va se réjouir. Merci Seigneur, que tu es bon. Et on était tout fiers de nous-mêmes. Parce que personne n'a pété une crise. On restait calme. Et au lieu de tomber dans le piège, de murmurer, de se plaindre et d'être fâché avec le camion qui bouge pas, mais il peut pas bouger non plus. On est arrivé à 7h10. Donc, écoute, c'est quoi? Donc, 4h10, 7h10, 3h du pont Champlain à l'aéroport. L'avion n'était toujours pas parti, sauf qu'ils ont dit, désolé, tu ne peux pas le prendre. Mais, voici la bonne nouvelle. Ils ont dit, mais on ne va pas vous charger pour un autre billet. Vous pouvez juste partir le lendemain sans frais supplémentaires. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Moi, je suis convaincu que si on aurait pris une décision être frustré, murmurer, je ne suis pas sûr qu'ils auraient eu cette affaire. Amen? Donc, pourquoi je dis cela? Parce que dans ces derniers jours encore, on va avoir plein d'occasions de murmurer, de se plaindre, et qu'est-ce qu'on va faire? OK? Donc, on ne murmure pas, on exerce l'hospitalité sans murmure, mais aussi on prend le don. Là, je sais que j'ai reculé un peu parce que je voulais donner ce témoignage. Mais on veut aussi découvrir, développer et déployer le don que Dieu a mis en nous. Et si on regarde encore une fois ce verset ici dans la parole vivante, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il utilise pour le bien des autres, qu'il utilise pour être glorifié, qu'il utilise pour que tout le monde dise, waouh, tu es vraiment doué, tu es merveilleux, waouh, pour que tout le monde nous mette sur un pédestal. Est-ce que c'est ça qui est marqué dans la Bible? Non, c'est marqué que tout le monde l'utilise pour le bien des autres et le mettre à leur service, comme il convient de bons gérants, tout le monde dit gérant, de la grâce infiniment variée de Dieu. Avez-vous reçu le don de parler? Annoncez le message de Dieu selon sa parole et transmettez aux autres ce qui vient de Dieu. Exercez-vous un ministère diaconal. C'est quoi le mot diaconal? Ça veut dire un ministère de service. Dire, mais moi, je ne suis pas appelé à prêcher ou à enseigner. C'est pas grave, peut-être vous êtes appelé à balayer, peut-être vous êtes appelé à construire, peut-être vous êtes appelé à faire des choses sur l'ordinateur. Peu importe qu'est-ce que vous faites, accomplissez votre tâche avec la force que Dieu vous donne. Dans tous les cas, agissez de manière à ce que la gloire revienne à vous-même. Oh, ah non, attention. À ce que la gloire revienne à qui? À Dieu, par Jésus-Christ, car à lui sont dues la gloire et la puissance au siècle des siècles, qu'il en soit ainsi. Savez-vous, est-ce que vous pouvez juste rêver avec moi une minute? Imaginez dans votre grande imagination une église où tout le monde dans l'église, sans exception, est sage, sobre et vit dans un esprit de prière. Tout le monde dans l'église a développé un ardent amour les uns pour les autres. Tout le monde dans l'église est hospitalier et ne murmure pas. Et tout le monde dans l'église a pris le temps de découvrir, développer et déployer son don et a mis ce don au service des autres. Là, laisse-moi vous dire, on n'aura plus de place dans cette église pour contenir le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pas Pasteur Ken qui donne le message. C'est pas mes idées, ces quatre points sont vraiment les points inspirés par le Saint-Esprit. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc, et voilà les quatre instructions que nous avons à suivre. Je vous lance le défi. Ce matin, je vous ai juste donné encore le menu. On a regardé le menu. C'est comme le serveur qui arrive à la table. Aujourd'hui, le choix du chef, c'est ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et puis, après cela, vous commandez et vous pouvez déguster. Là, aujourd'hui, je viens de vous dire, voici le choix du chef. Amen. C'est qui le chef de l'Église? Jésus. Voici les instructions du chef. Il veut qu'on fasse ces quatre choses. Maintenant, c'est à vous de prendre une décision, de mettre ces quatre choses en pratique dans votre vie. Et laisse-moi vous dire que même en quittant l'Église aujourd'hui, si vous avez cette résolution, on va pouvoir revenir la semaine prochaine déjà plus glorieuse. Et rendu à la fin de 2009, on va être tellement glorieuse, on n'aura plus de place ici. Vous me suivez? Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de nous. On va se lever debout, on va prier. Et ce n'est pas pire parce que ce n'est même pas midi. Midi moins deux. Il reste 2 minutes. Est-ce que vous avez reçu quelque chose ce matin? Alléluia. Seigneur, merci pour ton esprit. Merci, Seigneur, pour ces instructions pratiques. Merci qu'on peut être sage, sobre, afin de prier. Merci qu'on peut avoir les uns pour les autres un ardent amour. On peut apprécier et aimer tous les membres du corps. On peut passer du temps avec ceux que nous sommes supposés avoir relation proche avec, Seigneur. On peut exercer l'hospitalité sans murmure. Et on peut mettre au service des autres le don que j'ai reçu de Dieu. Juste en passant, quand on parle de toutes ces choses, je parle des dons, etc., je vous encourage, si vous n'avez pas encore fait le choix de faire les cours baptisés sur l'Europe et que vous l'avez comme son enfant, son disciple et son serviteur, je vous encourage fortement à le faire. On a fait cela, je le dis parce que juste hier, on l'a fait avec un groupe de personnes. Et on parle dans ces cours de comment découvrir, développer et déployer votre don. Peut-être vous dites, mais je ne sais même pas c'est quoi mon don. Je n'ai aucune idée. Suivez ces cours parce que graduellement, avec la parole de Dieu, on va vous aider à arriver à la place où vous comprenez et vous pouvez vraiment servir les autres avec les dons que Dieu vous a donnés. Donc, même avant de partir aujourd'hui, il y a des cartes bien branchées dans les chaises. Inscrivez-vous si vous n'avez pas encore fait ces cours. C'est gratuit. C'est le dimanche matin à 9h. On fait les trois premiers cours. Ça dure juste 45 minutes. Chaque cours dure juste 4 semaines. J'avais vraiment à cœur de vous encourager à le faire. Parce que le Seigneur veut que cette Église grandisse. Le Seigneur veut qu'on prenne notre place. Parce que nous sommes appelés à faire un impact. Dans la ville de Drummondville, la province du Québec, la francophonie et au-delà. Donc, prie avec moi. Merci, Père, pour ton esprit. La fin de toutes choses est proche. Alors je serai sage et sobre afin de pouvoir prier. Je vais développer un amour ardent pour tous les membres du corps. Je te remercie, Seigneur, que tout ce que je suis et tout ce que j'ai t'appartient. Et je vais être hospitalier sans murmure. Et Seigneur, merci que je suis doué. J'ai reçu, lors de ma nouvelle naissance, un don particulier. C'est à l'intérieur de moi. Aide-moi à découvrir, à développer et à déployer ce don pour que je puisse la mettre au service des autres. Et vois ton corps avancer, vois ton œuvre accomplie, vois la moisson récoltée, pour que le précieux fruit de la terre puisse être sauvé et tu puisses revenir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va faire un dernier chant. Je vous aime. On va se voir mercredi soir. N'oubliez pas encore.